Place publique.
L'égalité salariale entre hommes et femmes renvoyée aux calendes grecques, ça s'est passé ce matin au Conseil des États. Un projet visant à instaurer plus de transparence dans les salaires des entreprises a été retourné à l'expéditeur. Réaction et analyse avec nos invités dans un instant. La gratuité des transports publics, est-ce une idée folle ou un modèle réaliste? Les Neuchâtelois pourront voter bientôt sur cette question. En effet, une initiative populaire qui propose une telle mesure a abouti il y a quelques jours. On en débat après 18h30. Enfin, aux alentours de 18h45, on va vous proposer de rencontrer un homme discret mais très puissant. Il s'agit de Raffaello Radichi. À 66 ans, l'entrepreneur chaudfoignier est probablement l'un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand promoteur immobilier de l'arc jurassien. Il a accepté de nous raconter son parcours et sa vision du métier à 2 mois de la tenue du salon de l'immobilier neuchâtelois.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Les femmes ne sont pas prêtes de gagner autant que les hommes pour le même travail. Le Conseil des États n'a pas osé dire oui ce matin à un projet du Conseil fédéral, un projet qui aurait permis d'obliger les entreprises à faire preuve de transparence salariale. La copie a été renvoyée en commission. Une décision jugée lamentable par le sénateur neuchâtelois PLR Raphaël Comte, sans parler des nombreuses réactions indignées de la part de femmes politiques. Alors que s'est-il passé pour en arriver là? On va tenter de le comprendre. Avec notamment Martine Decourt du Commun. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coprésidente des Femmes Socialistes Suisses. Alors, avant d'entendre éventuellement Jérôme Favre qu'on essaye de joindre, comment vous expliquez ce résultat aujourd'hui? Comment se fait-il qu'une mesure qui aurait pu permettre de concrétiser l'égalité sur les salaires entre les hommes et les femmes n'ait pas passé la rampe?
Alors, ce que je peux dire, c'est surtout, déjà, je suis vraiment en colère par rapport à cette décision. Et c'est vrai que quand on suit les débats, on se dit peut-être qu'il y a quand même une chance que ça passe. Mais finalement, la majorité du Conseil des États n'a pas voulu mettre en place des mesures pour la surveillance des salaires. Et je dirais que c'est de la part de cette majorité de droite, c'est vraiment un signal qu'ils n'ont pas envie de travailler sur la discrimination salariale.
La conseillère nationale argovienne verte, Irène Kéline, parle d'une honte, d'un affront aux femmes. Ce soir, ce sont toutes les femmes du pays qui peuvent être en colère.
Alors en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui sont en colère. Au niveau des femmes socialistes, il y a vraiment un élan qui se met en place pour dire il y en a marre, on veut appliquer la Constitution qui date de 37 ans. Et je pense que vraiment la majorité du Conseil des États est vraiment dans une bulle et ne veut pas entendre ces appels de la part des femmes.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment cette mesure en question aujourd'hui, à savoir obliger les patrons d'entreprise à faire analyser les salaires de l'entreprise par des tiers, qui aurait permis de concrétiser l'égalité salariale? Est-ce que c'était pas, comme le dénonce la droite, une partie des élus de droite, une usine à gaz?
Alors, c'était vraiment des mesures très simples. C'était vraiment quelque chose d'allégé par rapport au projet qui avait été mis en consultation. Donc, le Conseil fédéral a entendu les remarques qui avaient été faites par les milieux économiques. Mais finalement, le signal, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème avec l'égalité salariale et qu'on ne doit rien faire. Donc, on peut se cacher derrière plein d'arguments, comme quoi c'est trop de travail administratif ou finalement, c'est pas le moment. Mais finalement, le signal qui est donné, c'est non à ces mesures. Donc, on veut maintenir des discriminations salariales.
La droite maintient qu'avant de mettre la pression sur les patrons, sur les entreprises, c'est d'abord à l'administration publique de donner l'exemple. Est-ce que vous recevez cet argument?
Alors, cet argument, c'est vrai, il a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, mais dans la loi qui était prévue ce matin au niveau du Conseil des États, ça ne faisait pas abstraction de l'administration publique, donc ça a été rappelé. Et il y a aussi une charte qui a été mise en place pour l'administration publique, et donc il y a des choses aussi qui se font dans ce domaine. Donc, se cacher derrière cet argument est finalement, encore une fois, une volonté de dire on ne veut pas pallier ce problème.
On a l'impression que pour ce débat sur l'égalité salariale, c'est un peu comme le débat sur l'écologie. Les opposants plaident pour l'incitation et non la contrainte.
Ce qu'on voit surtout, c'est que depuis 37 ans, on a cette disposition au niveau de la Constitution. Ensuite, on a une loi sur l'égalité qui a été mise en place. Et finalement, le Conseil fédéral a fait l'analyse comme quoi cette loi était inadaptée pour arriver à une égalité salariale. Et finalement, ce qui se passe, c'est que on parle d'incitation et on dit toujours que c'est peut-être trop contraignant, mais finalement, le projet qui était proposé par le Conseil fédéral n'avait rien de contraignant. C'était des mesures qui devaient être prises au niveau des entreprises de plus de 50 collaborateurs devaient faire une analyse externe, mais en aucun cas des mesures strictes de sanctions étaient mises en place suite à cette analyse.
Alors les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes, ça représente 7000 francs par an, dont une partie de cette somme reste inexpliquée, hein, donc serait due directement à une discrimination due au sexe. Alors, l'écart salarial reste important, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il a quand même été divisé par deux depuis ces 20 dernières années, a-t-on rappelé ce matin au Parlement. Est-ce que ce n'est pas le signe, Martine Decour, que tout ça va se résorber de soi-même, gentiment, organiquement?
Alors, on aimerait bien que ça soit le cas, mais finalement, on voit très bien que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et peut-être rappeler que ces manques à gagner des femmes, c'est finalement de l'argent en moins à la fin de chaque mois. Ça peut mettre aussi des femmes dans certaines situations de paupérisation. C'est aussi difficile quand on cotise moins à l'AVS d'avoir après aussi au niveau du deuxième pilier d'avoir des rentes décentes. Donc finalement, de dire ça va se faire tout seul, c'est que repousser le problème et c'est ne pas voir qu'il y a un réel problème.
Vous l'avez dit, hein, l'égalité salariale homme-femme, ça a des répercussions sur d'autres enjeux majeurs, hein, comme la prévoyance vieillesse. On dit que c'est une partie de l'explication de ce pourquoi cette réforme de la prévoyance a échoué, le mécontentement des femmes. Avec nous, nous a rejoint Jérôme Favre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant parlementaire à Berne, correspondant pour les radios régionales romandes. Alors vous avez assisté à ces débats. Comment expliquer un tel blocage alors que tout le monde dit vouloir supprimer les inégalités salariales?
Vous savez, on est toujours un petit peu dans le même schéma, en fait, où vous avez une gauche qui est plus volontariste, qui veut peut-être plus d'État, en fait, plus d'intervention de l'État. C'est d'ailleurs ce qui avait posé un petit peu problème lors de la consultation sur ce projet, ou sur l'avant-projet même, où c'était un petit peu moitié-moitié entre ceux qui voulaient une intervention de l'État, comme la gauche aujourd'hui et une partie du PDC, et ceux qui veulent le moins d'État possible, c'est la droite libérale, et puis une partie du PDC également. Donc le gap, si vous me permettez ce terme-là, est simplement à cet endroit. Du côté de la droite, on veut que les entreprises puissent le faire de manière assez libre pour éviter une certaine bureaucratie et une certaine charge ou surcharge administrative.
Ce matin, reculer pour mieux sauter, ou bien c'est vraiment renvoyé au calende grec, comme ça a pu être dit?
Renvoyé au calende grec, c'est une crainte qui est certainement légitime, parce que ça rallonge quand même le processus, et il faut savoir qu'on parle de cette égalité salariale de manière assez sérieuse et assez intense depuis 2009, lorsqu'il y a eu un premier dialogue sur l'égalité des salaires. Alors on recule pour mieux sauter. On veut approfondir d'autres variantes, ça va prendre du temps. La question est quelles vont être les variantes. Justement, la droite, qui a eu la majorité aujourd'hui, veut moins d'intervention, donc plus de volontarisme, ou plus de volonté, en fait, tout simplement, que les entreprises puissent déterminer elles-mêmes ce qu'elles veulent faire. C'est ce qu'on avait proposé en 2009 avec ce dialogue. Et en 5 ans, seulement 51 entreprises sur la base volontaire avaient fait cet examen, cette analyse. Je dis seulement parce que à l'époque, en 2014, on avait jugé que c'était insatisfaisant.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Et on termine notre débat sur l'égalité salariale avec une mesure qui a été renvoyée en commission ce matin au Conseil des États, une mesure qui permettait d'obliger les entreprises à faire preuve de transparence salariale. Alors, Jérôme Favre, on l'entend, toute la droite n'était pas opposée à cette mesure. Je citais tout à l'heure Raphaël Comte, qui finalement juge que la décision ce matin était lamentable, le mot est fort.
Le mot est fort, effectivement, mais c'est un débat dans lequel il y a eu plusieurs mots forts, en tout cas plusieurs citations. On s'est fait plaisir aussi, hein, par exemple, Liane Maury-Pasquier, la socialiste genevoise, qui a dit « c'est un compromis tiède pour une question brûlante ». On a beaucoup joué avec les mots, mais le débat était très sérieux, il était même assez tendu. D'ailleurs, c'est assez rare, il me semble, on s'est même un petit peu disputé sur la façon de procéder pour le vote. Est-ce qu'il faut aller voter d'abord l'entrée en matière ou l'entrée en matière avec la question du renvoi? Cette question du renvoi, en fait, un petit peu crispé le débat, très vraisemblablement, d'autant qu'elle venait du PDC, d'un PDC lucernois, Konrad Graber, ce qui a certainement aussi fâché les femmes PDC qui, elles, ont soutenu le projet en bloc. Mais notez bien que, sur le fond, apparemment, on est quand même d'accord de faire quelque chose, puisque l'entrée en matière elle-même n'a pas été combattue. C'est le projet lui-même qui pose problème, d'où la nécessité pour certains, pour la droite, d'étudier d'autres variantes.
Martine Decourt, c'est un signal, peut-être un faible signal, une maigre consolation, mais comme le dit Jérôme Favre, l'entrée en matière a eu lieu. Il y aura probablement une action prochainement qui sera débattue, proposée.
Alors, j'aimerais croire à cet élément positif, mais c'est vrai que les débats ont montré qu'on parlait d'autres mesures, mais il n'y a personne qui a amené d'autres mesures. Quelles sont ces mesures? Et finalement, là, c'était déjà un projet qui était léger, qui était revu par le Conseil fédéral. Et ne pas statuer sur ce projet montre très bien que si le Conseil des États revient avec une proposition, ça sera encore plus allégé. Et ça, c'était inadmissible.
Pour conclure, que dire de votre posture? Vous co-présidez les femmes socialistes, vous êtes aussi dans l'action, dans le militantisme. Qu'est-ce qui va se passer? Les femmes sont en ordre de marche. Est-ce qu'une forte mobilisation est à prévoir? Est-ce la seule solution de faire bouger les fronts?
Alors c'est vrai qu'on a quelques jours du 8 mars, hein, qui est une date importante pour les femmes socialistes. Donc il y a plusieurs mobilisations qui auront lieu à travers la Suisse et on sera présente pour l'ensemble de ces mobilisations. On va aussi thématiser la charte des dans le domaine public pour l'égalité salariale, parce que c'est vraiment un thème qui nous préoccupe beaucoup. Mais je dirais que c'est vrai qu'il y a vraiment un élan qui se met en place et c'est peut-être le seul élément positif finalement de ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on voit que les femmes ont envie de montrer qu'elles en ont marre de cette situation. Donc au niveau des femmes socialistes, nous on est toujours aussi à dire qu'il faut des femmes dans les parlements. L'exemple de ce matin est finalement la majorité bourgeoise, mais aussi la majorité des hommes a pris cette décision ce matin et nous on va continuer à nous engager pour une meilleure représentation des femmes dans les parlements.
Merci Martine Decourt du Commun d'avoir été avec nous. Vous co-présidez les femmes socialistes suisses. Jérôme Favre aussi avec nous, correspondant à Berne pour les radios régionales. Bonne soirée à tous les deux.
Bonne soirée.
Place publique.
Les Neuchâtelois voteront sur la gratuité des transports publics. Une initiative populaire a été déposée en fin de semaine dernière. Intéressant de préciser que le texte a recueilli le nombre de signatures requis bien avant le délai de dépôt qui était fixé au 13 avril. Il y a du répondant. Au total, pas moins de 4600 personnes, 4670 personnes ont soutenu l'idée en signant le texte. Alors en cas de oui dans les urnes, Neuchâtel serait le premier canton de Suisse à faire le pas. La gratuité des transports publics, est-ce que c'est un modèle efficace et réaliste ou au contraire, une utopie hors de prix? On en débat avec nos deux invités. Avec nous, Laurent Debrau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le membre du comité d'initiative et député au Grand Conseil Neuchâtelois chez Les Verts. Avec nous également, Mathieu Aubert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous aussi député au Grand Conseil pour le PLR et vous êtes membre de la direction de la Chambre neuchâteloise de commerce et d'industrie. Laurent Debrau, est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que le moment est bien choisi de proposer une telle gratuité, une telle mesure, alors qu'on le sait, les finances neuchâteloises vont au plus mal?
En l'occurrence, nous avons proposé quelques pistes que nous n'avons pas formellement définies, mais qu'on a ouvertes. On a ouvert certaines pistes, comme par exemple la fiscalité des frais de déplacement, puisque actuellement il est possible de déduire la totalité des frais de déplacement en auto, alors que la plupart des cantons suisses maintenant autorisent que les déplacements, l'équivalent en transport public. Or, si les transports publics sont gratuits, bien évidemment, les frais de déplacement pourrait ne plus exister. Et puis il y a d'autres solutions aussi. On est aussi un des cantons qui ne taxons pas, par exemple, les places de parc dans les gros générateurs de trafic, les centres commerciaux, par exemple.
Mathieu Hubert, vous l'entendez, hein, il y a des pistes de solutions pour compenser ce manque à gagner de la billetterie qui disparaîtrait. On parle de 30 à 40 millions. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'agir quelque part à contre-courant, hein, contre le cycle de l'austérité, pour oser une mesure qui, on va le discuter, peut avoir des retombées intéressantes?
Non, alors je crois que la première question que vous posiez était intéressante et tout à fait juste. Est-ce que c'est le bon moment? On doit garder en tête qu'on a voté au niveau cantonal sur un projet qui s'appelle Mobilité dans 2030, qui vise à fédérer finalement les acteurs des transports selon quatre piliers et qui met dans un même paquet les transports publics, les utilisateurs du transport individuel motorisé, hein, les automobilistes, la mobilité douce et évidemment le RER Neuchâtelois. C'est un projet qui a été largement adoubé par la population, puisqu'accepté à plus de 84% en 2016. Et là, on est malheureusement face à une initiative qui, déjà, la remet un peu en cause, puisque finalement, elle veut mettre les uns contre les autres, puisqu'elle confronte les automobilistes avec les utilisateurs des transports publics. Puisque les seuls moyens de financer cette initiative qui ont été évoqués par M. Debrot, c'est finalement soit de pénaliser les pendulaires en les fiscalisant encore davantage dans un canton qui, on le sait, n'est pas particulièrement avantageux d'un point de vue fiscal, soit en taxant ceux qui utilisent également la voiture pour aller faire les courses auprès des générateurs de trafic.
Laurent Debrot, est-ce
vraiment,
que...
C'est vraiment un projet qui est à l'encontre de l'unité qu'on avait réussi à obtenir aussi par ce projet.
Vous divisez, vous mettez des utilisateurs de mobilité contre les autres?
Non, pas du tout. Mobilité 2030, du reste, le grand point faible du projet, c'est qu'il n'y avait absolument aucune mesure qui visait la complémentarité et le changement de mode. Actuellement, la multiplication des trajets en voiture ne fait que d'augmenter et personne ne propose de solution efficace pour réduire le trafic. On sait que le trafic, c'est des nuisances environnementales importantes, pollution de l'air, sonore et aussi une utilisation du territoire qui est extrêmement important et qui péjore finalement l'ensemble de notre société. Par là, on essaye de proposer une solution où les transports publics deviendraient un service public qui permettrait aux gens de se passer de l'auto. Donc, c'est finalement une amélioration de la situation actuelle.
Mathieu Hubert, encourager la mobilité douce, désengorger les routes aussi, puisqu'il y aurait moins de monde, il y aurait plus de monde dans les trains, dans les bus, dans les trams. Est-ce que ce n'est pas finalement un pari qu'il faudrait tenter? Ce serait trop bête de ne pas essayer, non?
Mais c'est un pari que l'on a tenté, que l'on a tenté en 2016 avec ce vote, avec ces projets. C'est 1 milliard pour un RER, c'est 1 milliard pour le contournement des villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Et quand on parle route, on ne parle pas uniquement pour le transport individuel motorisé, on parle évidemment aussi pour les transports publics et les bus. C'est des investissements qui sont très conséquents, qui sont ambitieux. Donc dire aujourd'hui qu'on ne fait rien pour favoriser le transfert modal, c'est simplement faux. C'est complètement en contradiction avec les projets qui ont été développés, qui ont par ailleurs été aussi soutenus par les Verts, hein, je tiens à le préciser quand il s'est agi de voter sur Mobilité 2030. Donc on est complètement dans un double discours qui n'est pas cohérent. Et en plus, quand on pense aussi au fait que le prix du billet des transports publics est quand même assumé aujourd'hui à hauteur des 2/3 par les collectivités. Donc il y a déjà un effet qui est fait, en plus de toutes les taxes qui sont évidemment aussi payées par les automobilistes. Donc on doit trouver un équilibre, on ne peut pas faire du tout l'un ou tout l'autre, et c'est ce bel équilibre qui avait été trouvé dans ce projet-là auquel nous devons nous identifier, puisque c'est aussi le peuple neuchâtelois qui s'y est identifié et qui vaut la peine de mener jusqu'à son terme avant d'essayer de jouer l'apprenti sorcier avec les allumettes.
On le comprend bien, Mathieu Hubert, vous estimez que cette idée est radicale, va à l'encontre d'un compromis qui a eu beaucoup de succès auprès de la population, qui a été plébiscité largement. Laurent Debrot, une idée radicale certes, mais pas forcément utopique, en tout cas vous vous en défendez, puisque plusieurs communes et importantes agglomérations en France ont fait ce pas.
Alors, il faut savoir déjà que les transports publics, effectivement, comme l'a dit Mathieu Hubert, sont déjà largement payés par les pouvoirs publics. Je viens d'apprendre qu'en France, il y a 29 agglomérations qui offrent la gratuité des transports publics, donc ce n'est pas une utopie, en tout cas pas en France. Même on a des grandes villes comme Tallinn, la capitale de l'Estonie, c'est à 2 millions d'habitants, et puis l'Estonie envisage même d'offrir la gratuité des transports publics sur l'ensemble du pays en 2019. Donc il y a une évolution qui va dans ce sens-là. Mais rappelez que finalement, quand on dit que là, les 2/3 de l'État ou les collectivités publiques payent les transports publics, ça veut dire que finalement la population ne paye qu'un tiers, les usagers ne payent qu'un tiers, effectivement, mais finalement ce tiers, qu'est-ce qu'il couvre ? Est-ce qu'il couvre pas simplement le prix de la billetterie, le prix de l'administration qui est autour de la billetterie, le prix des contrôles aussi, puisqu'on doit avoir des personnes qui vérifient si les gens ont bien des abonnements, et puis finalement on a créé avec ces derniers 30% de financement privé finalement une usine à gaz entre guillemets qu'on pourrait facilement supprimer pour finalement offrir un service gratuit.
Mais Laurent Debroux, tout n'est pas si simple. Il y a des villes qui ont essayé, qui se sont cassées le nez. On pense à Sheffield, Rotterdam ou encore une ville allemande qui a été même victime de son succès avec des infrastructures qui ont été absolument prises d'assaut. Ça coûtait beaucoup trop cher. C'est quand même un peu un pari avec des chances d'échouer.
Oui, alors après, c'est effectivement, il y a un problème, si on est victime de son succès, il y a un problème de financement par la suite. Après, on peut avoir une vision macroéconomique, ça veut dire que du moment où on utilise moins l'auto, moins de benzine, une économie va s'en sortir plutôt mieux. Et puis, on voit que ce qui s'est passé en Allemagne avec cette ville dont je ne sais plus...
Templin,
qui est revenue en arrière. En fait, elle n'est pas vraiment complètement revenue en arrière, puisqu'elle a offert des abonnements généraux pour 50 francs par année. Donc, on voit quand même qu'on est revenu en arrière, mais très modestement.
Le mot de la fin pour vous, Mathieu Aubert. On a entendu le mot de la part de Laurent Debroux. Il parle de raisonnement macroéconomique. Il peut y avoir des incidences vertueuses pour l'économie. Ça peut doper une certaine activité économique. D'ailleurs, Dunkerque en fait maintenant l'expérience. Est-ce que vous, en tant que aussi représentant des milieux économiques, vous n'êtes pas intéressé à étudier d'un peu plus près cette idée, la tester ?
Non, alors bon, évidemment, elle pourrait être étudiée. Je doute beaucoup de ces retombées-là. D'une part, par le moyen du financement qui est quand même proposé, qui va à l'encontre de la volonté d'avoir des meilleures retombées, puisqu'on veut taxer les entreprises, taxer les parkings, pénaliser les pendulaires. Donc, tout ce qui va à l'encontre d'une bonne attractivité pour nos entreprises et pour notre économie. Donc là, on est déjà, déjà contradictoire à la base.
Bon, on offre une autre attractivité.
Mathieu Aubert, terminé.
Écoutez, oui, non, mais je pense que l'approche macroéconomique à l'échelle d'un canton, ce serait quand même une première, c'est extraordinaire. C'est comme quand on dit qu'il y a des villes qui l'ont déjà adopté. À l'échelle d'une ville, quand il y a des transports publics qui sont efficaces, oui, mais aujourd'hui, on veut une proposition à l'échelle d'un canton, avec des personnes qui travaillent de nuit, qui travaillent à des horaires irréguliers. On a aussi un canton très industriel qui a ces contraintes-là, et aucune proposition concrète ne serait formulée pour ces personnes. Et on met les automobilistes contre les usagers des transports publics, mais on met aussi les résidents urbains contre les résidents des zones semi-urbaines ou carrément rurales, qui eux seraient carrément pénalisés par ce développement-là, ou en tout cas par les coûts qu'il engendrerait à leur détriment. Et c'est là où on a vraiment un problème avec cette initiative.
Bon, les transports publics seraient gratuits pour tout le monde, hein, y compris pour les automobilistes.
Oui, mais la gratuité n'est qu'une utopie, vous le savez bien, il faut bien le financer. On parle de 33 à 43 millions de francs, vous connaissez l'état des finances du canton de Neuchâtel. Soit on va les chercher auprès des autres, comme vous l'avez suggéré, et du coup ils sont pénalisés, soit, je ne sais pas de quelle manière vous allez le trouver, mais 33 à 43 millions dans le budget de l'État, vous voyez bien la peine qu'on a à boucler un budget déficitaire à hauteur de 37 millions. Je crois qu'aujourd'hui, bon, on a des priorités qui sont un peu plus importantes au niveau du canton de Neuchâtel que d'offrir une pseudo-gratuité.
Bon, si on proposait aujourd'hui d'offrir 20 centimes par kilomètre aux usagers, aux automobilistes, on ne le ferait pas. Si ça coûtait 45 millions, on ne se le permettrait pas, alors que c'est le cas actuellement.
Non, mais aujourd'hui, les déductions fiscales que les pendulaires déclarent sont des frais effectifs. Vouloir simplement les
c'est des pertes fiscales effectives aussi.
C'est pas des pertes fiscales, monsieur Debroux. C'est des déductions qui sont octroyées en fonction des coûts qui sont engendrés. Et le service des contributions est relativement strict sur le fait d'octroyer ou non une déduction en fonction de la possibilité de prendre les transports en commun plutôt que le transport individuel. Donc ça montre bien que ce sont des personnes qui n'ont pas le choix, qui peuvent habiter dans des zones rurales, qui vont travailler dans des zones rurales, qui n'ont pas une desserte en transport public qui est facilement accessible porte à porte et qui seront directement pénalisées par ces mesures fiscales que vous envisagez.
Très rapidement, Mathieu Aubert, c'est le mot de la fin. La gratuité des transports, elle existe pour les touristes hein, qui séjournent au moins une nuit dans le canton. Pourquoi ce raisonnement ne vaudrait pas pour tous ceux qui résident toutes les nuits de l'année dans le canton de Neuchâtel et qui payent leurs impôts ?
Alors pour les touristes, c'est une réflexion qui est très différente. C'est une réflexion d'attractivité et de valeur ajoutée des touristes qui sont dans le canton de Neuchâtel principalement des excursionnistes, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas la nuit ou très peu dans le canton de Neuchâtel. Ils viennent découvrir ce qu'il y a dans le canton, mais sans y résider pour la nuit. Alors évidemment, il y a des retombées financières auxquelles le canton échappe. Et avec la démarche qui avait été proposée par Tour Neuchâtelois, c'est la gratuité des transports publics à condition de séjourner dans le canton et d'y passer au moins une nuit. Et on fait d'une pierre deux coups puisqu'on leur propose de séjourner et ensuite d'aller éventuellement découvrir d'autres choses dans le canton. Donc il y a vraiment une réflexion avec des retombées qu'on n'aurait pas pour la gratuité locale puisque... Là, on a une réflexion qui doit être différente, je l'ai évoqué, c'est les questions des horaires irréguliers, du travail.
Tout à fait, on vous a bien compris.
Des dessertes en transport public insuffisantes, et la réflexion ne peut pas du tout être faite de la même manière de ce point de vue-là.
Merci messieurs d'être venus débattre de cette initiative donc, qui prône la gratuité des transports publics, ça va passer au Grand Conseil, on va en reparler, et le peuple neuchâtelois aura donc son dernier mot sur la question. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Place publique.
Il est le premier propriétaire privé du canton de Neuchâtel. L'entrepreneur Raffaello Radicchi a bâti un véritable empire immobilier à La Chaux-de-Fonds. L'homme de 66 ans possède plus de 150 immeubles dans la cité horlogère et ailleurs dans le canton de Neuchâtel, sans parler des projets de construction en cours. Raffaello Radicchi dirige la holding Insulae, qui regroupe ses entreprises actives dans la construction. Et dans deux mois, il sera l'un des invités de marque du salon neuchâtelois de l'immobilier, aux côtés d'autres pointures du milieu en Suisse romande, notamment le jurassien Pierre Kohler. L'occasion d'en savoir plus sur le parcours de Raffaello Radicchi, un parcours hors du commun, même si l'homme préfère la discrétion plutôt que les devants de la scène.
Moi, je suis un fils de paysan et je suis né à Gubbio en 1951.
Ça, c'est au centre de l'Italie, près de Pérouse.
Oui, oui. Et puis, je suis venu en Suisse pour gagner un peu d'argent. En 69. Et puis, je me suis créé tout gentiment. Au départ, en travaillant comme un maçon. Puis après, j'ai eu l'eczéma du ciment, j'ai dû arrêter. Et puis, j'ai appris menuisier. Et puis après ça, on a commencé avec mon associé qui s'appelait Steinweg, acheter des anciens immeubles, commencer à rénover, faire travailler notre société qui était la menuiserie. Et ainsi de suite. Mais je suis fait tout gentiment, une pierre après l'autre.
De devenir un grand entrepreneur immobilier, c'est comme devenir un millionnaire. C'est le premier immeuble qui est le plus difficile à acquérir et après ça va tout seul.
Oh, c'est le premier immeuble, c'est difficile, mais ça va pas tout seul non plus après. Il faut travailler, il faut savoir faire les affaires, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut avoir une vie familiale qui vous aide à vous développer, qu'il vous faut la paix en famille. Il faut la santé, on oublie la santé, si on n'a pas la santé, on ne fait rien.
Raffaello Radicchi, c'est 150 immeubles à La Chaux-de-Fonds ou dans le canton. En chiffres, ça représente quoi?
Ça représente beaucoup, mais je ne peux pas vous dire les chiffres, quel volume ça représente, mais énormément, oui.
Et pas seulement à La Chaux-de-Fonds, hein, c'est dans tout le canton, vous êtes élargi jusqu'au littoral.
Oui, oui, j'ai aussi des objets marins, à Courtaillot, à Gorgé, à Neuchâtel. J'oublie encore quelque chose, je pense pas. Mais...
Comment expliquer que de cette volonté de faire un peu d'argent, comme vous dites, vous en êtes arrivé là?
Moi, ce que j'aime, c'est les gens, faire les affaires. C'est pas... Ah bon, la fin, c'est l'argent. Mais ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai toujours investi dans le canton. C'est pas comme beaucoup de gens qui viennent, ils prennent la substance ici du canton, puis ils partent à dépenser ailleurs. Moi, j'ai, depuis le départ, j'ai réinvesti dans le canton, dans la ville où elle m'a accueilli, et puis je continuerai à faire ça jusqu'à je pourrai.
Parmi tous les projets immobiliers en cours, il y en a beaucoup, c'est lequel qui, pour l'instant, vous définit le mieux?
C'est les silos, les moulins ici à Chaux-de-Fonds. Ça me définit mieux parce que c'est pas un objet traditionnel, c'est un objet qu'il faut réfléchir, c'est un objet qui me prend du temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que traditionnel, on fait comme tout le monde un immeuble neuf. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un objet comme ça parce que J'ai passé tout le temps devant et puis je voyais cet immeuble qui s'est foutu à l'air. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis gentiment, après, on a pu arriver à l'acheter et puis faire quelque chose.
Je reviens sur une expression qu'on vous a, j'imagine, souvent servie depuis qu'elle a été publiée dans les journaux par nos confrères il y a un certain nombre d'années. Le mot « radicicity » pour parler de la Chaux-de-Fonds, c'est une forme de réalité ou au contraire, on est en plein dans le mythe?
On est en plein dans le mythe. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'objets, mais jusqu'à arriver à dire « radicicity », c'est gros.
Le damier de la Chaux-de-Fonds, ce n'est pas votre monopoly?
Non. Mais si vous regardez la carte des Chaux-de-Fonds, il y a tous les objets qu'on a faits, c'est sous la carte avec des points verts, rouges, vert clair.
On y va? On regarde?
Voilà, vous voyez, tout ça, hein, les verts, c'est tous les immeubles locatifs qui sont en Chaux-de-Fonds, qui m'appartiennent. Les rouges, c'est tous des immeubles qu'on a faits ou des villas en PPE ou vendus. Les verts clairs, c'est des terrains qui sont un peu éparpillés par ça. Voilà.
Il en reste encore.
Il y en reste encore. Il en reste encore.
Et quand vous voyez tous ces points, qu'ils soient rouges, verts, verts clairs, ouais, quel sentiment domine? C'est de la fierté?
Ouais, un peu quand même, mais c'est plutôt un plaisir de voir que durant toutes ces années, on a pu faire quelque chose pour une ville. Que quand je me rappelle les années 80, vous avez tous ces immeubles vétustes, façades noires. Et aujourd'hui, si on voit Chaux-de-Fonds, a beaucoup changé. Grâce aussi à mon apport, comme vous voyez sous la carte.
La Chaux-de-Fonds, une ville qui connaît des hauts et des bas au niveau de la conjoncture. Vous l'avez connue en pleine crise horlogère. Vous la connaissez aujourd'hui aussi, qui se cherche un nouveau souffle au niveau financier. Est-ce que cette conjoncture difficile d'une ville vous a paradoxalement faciliter la tâche pour investir dans l'immobilier?
Faciliter, c'est un grand mot. Nous, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, on arrive toujours à trouver des locataires ou des propriétaires. C'est parce qu'on fait peut-être autre chose que les autres. Par exemple, pour les rénovations, on va beaucoup plus loin que si vous prenez, une coopérative, une assurance qui font des rénovations des anciens immeubles. Et nous, on va beaucoup plus loin de l'investissement. Et avec ça, on arrive à louer comme il faut nos appartements.
Et justement, ces difficultés politiques et financières à la Chaux-de-Fonds, vous les regardez comment? Avec inquiétude, parce que ça risque de nuire à l'attractivité d'une ville où vous avez des immeubles? Ou au contraire, c'est une carte à jouer pour aller encore plus loin, parce qu'un jour, ça ira mieux?
Alors, c'est sûr que ça nuit par rapport aux investissements extérieurs, les gens qui doivent investir. Si on a une ville qui ne va pas bien, y a plus de peine que les gens viennent investir. Ça, pour nous, c'est aussi bien que la ville aille bien. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est un handicap pour nous d'avoir une ville qui va... que les comptes de la ville ne vont pas bien. Il y a un problème structurel, il y a un problème des bases de la ville. Mais voilà, pour nous, pour le moment, on a toujours trouvé de faire notre travail, rentabiliser nos investissements, et on n'a pas eu trop de soucis jusqu'à maintenant.
Quant au canton de Neuchâtel, il perd des habitants. Des chiffres récents au niveau démographique montrent que Neuchâtel perd des habitants, le canton. Ce souci démographique, vous le ressentez?
Oui, on le ressent. Alors, ici, dans les Hauts, c'est plutôt les appartements qui se vident. Aujourd'hui, c'est les appartements qui n'ont pas d'ascenseur, qui sont des appartements qui sont au quatrième, cinquième étage. C'est les premiers appartements qui se vident dans les anciens immeubles. Et c'est vrai que si ça continue, c'est inquiétant, ça devient inquiétant. Aujourd'hui, pas encore, mais si ça continue comme ça, c'est inquiétant, c'est sûr.
Donc vous êtes très actif dans le tissu économique de la région, pas que dans l'immobilier. Est-ce que vous avez été tenté de vous faire plaisir peut-être avec des choses un peu plus extérieures, un peu plus populaires, entre guillemets, comme par exemple un club sportif, une institution culturelle, essayer de marquer la ville de votre empreinte aussi avec du symbolique et pas seulement du béton ou de la pierre?
J'ai eu pas mal des demandes concernant le président d'un club de foot ou bien d'un... Ok, mais je n'ai jamais voulu accepter parce que je suis tellement pris dans mon 7 heures et puis je n'aurai pas le temps de m'occuper. Puis voilà, puis ça, je n'ai pas d'intérêt.
Ce qui fait qu'on dites-vous que vous êtes un homme discret. D'ailleurs, vous vous définissez comme tel. Vous aimez cette discrétion, vous aimez être plutôt en retrait, Raffaello Radichi. Est-ce que c'est votre manière de faire, c'est votre touche?
Oui, non, c'est vrai que moins on parle de moi, mieux c'est pour moi. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, moi, je fais pour moi, pour mon plaisir, ce que je fais. Je ne dois pas montrer parce que je sais faire quelque chose aux autres. Les autres, c'est la conséquence après. Quand les choses sont faites, les gens, ils voient qu'est-ce qu'on a fait.
Ça ne vous a pas tenté d'être sur le devant de la scène, un peu comme un Bernard Nicot ou un Christian Constantin, de vous montrer, d'occuper le terrain, pour peut-être aussi avoir plus d'influence, plus de mandats?
Non, je sais pas, c'est pas moi ça. Je me vois pas là-dedans. Je vois plutôt être en retrait, faire son petit job tranquille et puis continuer comme ça.
Raffaello Radichi, entrepreneur et CEO de Insulae. Vous pouvez retrouver cet entretien, bien sûr, sur nos sites internet. Sachez aussi que Raffaello Radichi et d'autres promoteurs immobiliers seront présents au Salon de l'immobilier neuchâtelois qui se tient du 25 au 29 avril. À ne pas manquer, ce sera au patinoire du littoral. C'est tout pour Place Publique. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.
Place Publique.